Alors bonjour Nadège Viel.
Bonjour.
Vous êtes donc consultante en agro-environnement et autrice. Vous avez notamment écrit deux ouvrages, deux romans, Peanut et Remise à zéro. Vous êtes originaire de Seine-et-Marne, mais vous vous êtes installée dans les Vosges, à Vittel, pour votre carrière professionnelle. Alors déjà, première question par rapport à ça, quelles impressions vous avez eues en arrivant dans les Vosges pour votre métier ?
Eh ben, j'ai découvert un super beau département. Donc moi, je suis dans la plaine des Vosges et je cherchais en fait un environnement, un cadre de vie, un cadre de travail plutôt rural, près des animaux. Et du coup, je suis tombée amoureuse de la région et c'est pour ça que ça fait 10 ans finalement que je suis devenue vosgienne d'adoption.
Et vous êtes donc consultante en agronomie, en agroéconomie.
Oui.
En quoi consiste votre travail ?
Alors du coup, sur la partie consultant en agro-environnement, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une coopérative agricole où j'accompagnais des éleveurs essentiellement de vaches laitières dans un verdissement finalement de leurs pratiques. Donc je travaillais avec des éleveurs qui se posaient la question de passer en agriculture biologique, donc pour les accompagner dans ce changement de système quand on passe d'un système conventionnel en agriculture biologique, pour répondre au cahier des charges, pour répondre aux contraintes environnementales, etc. On a un certain nombre de pratiques qui sont amenées à évoluer dans certains cas. Je travaillais aussi avec eux sur tout ce qui était formation et développement des médecines complémentaires, parce qu'on a de plus en plus d'agriculteurs qui veulent réduire l'utilisation des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des anti-parasitaires, etc., et qui finalement pour traiter, pour soigner leurs animaux avec de l'homéopathie, de l'huile essentielle, de l'acupuncture et compagnie. Donc je travaillais avec eux là-dessus. Et la dernière casquette, c'est sur la partie changement climatique, pour les accompagner à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et également pour les accompagner à adapter leur système de production face au changement climatique. Vu comme ils travaillent avec les saisons, c'est les premières victimes aussi du changement climatique. Donc on travaille avec eux sur ce sujet-là.
Et quelles ont été vos observations quand vous les avez rencontrés pour la première fois ? Est-ce que d'une manière générale, vous diriez qu'ils sont assez enclins à ces changements-là, qu'ils ont plutôt bien accueilli ces manières de changer les choses ?
Eh ben, c'est un peu comme chaque public, on a un peu les différentes philosophies, les différentes façons de penser. Donc, le public avec lequel je travaillais, ils étaient demandeurs, donc j'ai un peu un regard biaisé. Dans le sens où les agriculteurs que j'avais en formation, etc., ce sont des personnes qui étaient motivées, on n'a pas besoin de les traîner de force pour travailler là-dessus. Après, clairement, ça touche pas tout le monde. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que les mentalités, les façons de travailler sont en train d'évoluer très, très rapidement au niveau agricole.
Et est-ce que vous sentez quand même une certaine souffrance, comme on en parle souvent chez eux, ou pas du tout ?
Eh ben, il y a effectivement des cas qui sont très, très compliqués, mais souvent, au niveau des médias et compagnie, c'est toujours au plus alarmiste qui va vendre le plus d'articles ou le plus de journaux, etc. Ça reste une profession qui est soumise aux aléas climatiques, qui fait qu'on a un certain nombre de paramètres qui sont complètement indépendants de la volonté de l'agriculteur. On a les aléas des cours des matières premières, etc. Mais finalement, si on prend du recul, ces aléas-là de matières premières, de disponibilité sur le marché et compagnie, on les retrouve finalement dans un peu tous les corps de métier en tant qu'indépendant. Je pense qu'il ne faut pas dire que tout est noir dans le secteur agricole. Au contraire, on a un certain nombre d'éleveurs qui vivent pour leur métier, qui sont passionnés par leur métier. Et c'est ça aussi qui fait porter les choses.
Et alors, vous, à travers votre métier, quelles sont les solutions que vous proposez concrètement, ou même à titre personnel, quelles sont les solutions que vous proposez concrètement de ce point de vue-là, pour la transition écologique dans le métier d'éleveur ?
Eh ben, ça va être de redonner la part belle à tout ce qui va être, à mon sens, biodiversité. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier, avoir une diversité culturelle, pas faire qu'un assolement colza blé orge, on met tous ses œufs dans le même panier. En termes de biodiversité, c'est pas dingue non plus, parce qu'on va avoir des monocultures et compagnie. Donc vraiment diversifier ses cultures, diversifier ses éléments agroécologiques, diversifier ses productions, ses débouchés de production. Pour moi, c'est peut-être le principal levier à mettre en place chez beaucoup de monde.
Et alors, si on en vient maintenant à votre travail d'écriture, parce que vous êtes pas seulement consultante en agroéconomie, vous êtes aussi autrice, et les deux choses sont imbriquées l'une dans l'autre parce que votre carrière a inspiré vos livres, donc Peanut et Remise à zéro.
Tout à fait.
Comment elle est venue, cette envie d'écrire? Comment vous l'expliquez?
Eh ben, on a chacun des fibres différentes sur la partie loisir. Depuis que je suis toute petite, j'ai bien aimé, j'adore lire, et déjà quand j'étais petite, je m'amusais à réécrire les contes, genre Le Petit Chaperon Rouge, etc., les remodeler, les adapter et compagnie. Donc j'ai toujours eu cette fibre à bien aimer écrire. Après, il y a les études qui sont passées par là, où on se consacre à autre chose. Le début de carrière, où pareil, on se consacre sur le boulot avant de partir sur les loisirs. Et finalement, au bout d'un moment, cette passion a refait surface. Donc c'est une fibre naturelle, finalement.
Et donc, pour commencer avec Peanut, vous avez choisi le cadre vosgien et une histoire assez touchante qui vient lier en fait deux individus au mode de vie totalement diamétralement opposés. Donc, on pourrait dire que le thème principal du roman, c'est un petit peu la déconnexion à la nature que subit le personnage principal, comme de nombreux citadins. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette histoire et aussi sur la manière dont elle vous est venue, en fait? Comment vous est venue cette idée?
Oui. Alors, pour résumer très rapidement, l'histoire, en fait, c'est un roman, c'est une fiction complètement inventée, c'est pas inspiré de faits réels ou quoi que ce soit. C'est l'histoire d'un petit jeune de banlieue parisienne qui a toujours grandi dans sa banlieue, dans sa cité, qui a pas forcément les bons amis, le bon environnement dans lequel évoluer. Et du coup, pour l'extraire de cet environnement de vie-là, sa mère l'envoie de force chez un membre de la famille qui est en fait un éleveur de vaches laitières au fin fond des Vosges. Et donc, l'histoire, c'est la rencontre de ces deux personnages, comme vous le disiez, qui ont des existences un petit peu différentes l'une de l'autre. Et l'objectif que j'avais derrière, c'était d'expliquer le quotidien d'un éleveur de vaches laitières, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre à la campagne? Qu'est-ce que c'est que les tâches d'un éleveur au fil des saisons? Et comment cette histoire, est-ce qu'elle m'est venue à l'esprit? Ça a été des pièces rapportées de caractères croisés à droite à gauche au fur et à mesure de mes rencontres et de mes accompagnements avec les éleveurs qui m'ont permis de brosser le caractère de Denis, donc le personnage qui est l'éleveur de vaches laitières. Et l'histoire à proprement parler, en fait, je l'ai écrite pendant le Covid, qui était une période assez morose, on va dire, en termes d'ambiance, etc. Et j'avais besoin de m'évader dans un cadre un peu plus sympathique, un peu plus joyeux. Donc ça a été ma façon à moi de m'échapper de la période Covid. C'était de passer un moment assez sympathique avec ces deux personnages-là, parce que ça reste pas mal de situations drôles pour certaines, etc., qui m'ont fait plaisir finalement pour m'échapper à ce moment-là.
Et si on se penche du coup sur la condition de l'autre personnage, donc le jeune qui vient de la banlieue pour aller vivre avec le membre de sa famille, avec l'éleveur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les villes vont dans le bon sens du point de vue de l'aménagement urbain, de la végétalisation? Quel est votre avis là-dessus?
Alors effectivement, il y a du bon boulot qui est en train d'être fait au niveau ville pour reverdir les espaces de vie communes. Donc je pense que là-dessus, il y a déjà une bonne inertie qui est lancée. Il y a encore beaucoup de boulot à faire parce qu'on a quand même un certain nombre de villes qui sont encore très très minérales. Donc quand on parle de stockage de carbone, d'îlots de fraîcheur et compagnie, il y a encore beaucoup à faire. Mais ce que je me rends compte quand même, c'est qu'on a de plus en plus de citadins qui se retrouvent complètement déconnectés de la réalité de la production, de la réalité des saisons, etc. Et ça, pour le coup, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, dans le sens où on ne sait plus les fraises qu'on va trouver chez le primeur au mois de décembre. On a des gens, que ce soit des enfants ou des adultes, qui ne savent plus que finalement les fraises, c'est pas cette saison-là. Donc là-dessus, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilisation à faire.
Et justement, Peanut, c'est un roman qui est très ancré dans la réalité. Et vous le disiez vous-même, c'est, enfin, pour vous inspirer, pour pouvoir donner du caractère à vos personnages, vous vous êtes inspiré de gens que vous avez réellement rencontrés. Est-ce que vous auriez des anecdotes à nous raconter à ce niveau-là, par rapport aux gens que vous côtoyez, aux éleveurs que vous avez pu rencontrer, etc.?
Et bah dans les anecdotes qui datent de il y a pas si longtemps que ça, qui datent des rencontres que j'ai faites ce week-end avec des lecteurs qui avaient lu Peanut, c'est que j'ai des éleveurs qui avaient lu le livre et qui m'ont dit franchement t'exagères sur le caractère de Denis qui est l'éleveur de vaches laitières, parce que j'ai un peu grossi certains traits pour que ça ressorte de façon plutôt humoristique. Donc en me disant voilà, t'as été un peu trop loin sur la partie du caractère de Denis, et à l'inverse des citadins qui m'ont dit t'as pas été assez loin sur le caractère du petit Parisien qui arrive à la campagne. Donc on n'arrive pas à contenter tout le monde sur la partie description des environnements, description des caractères. Mais finalement, ça arrive à parler à la fois aussi bien à l'agriculteur du fin fond des Vosges qu'au citadin de Nancy, par exemple, sans aller trop loin.
Si on en vient maintenant à Remise à zéro, donc votre autre roman, c'est dans un tout autre style parce que c'est un roman d'anticipation à la tendance apocalyptique. Vous pouvez nous en dire plus à son sujet ?
Oui, alors Remise à zéro, effectivement, c'est un roman d'anticipation écologique. Alors, il est sorti avant Peanut, ils sont complètement déconnectés l'un de l'autre, on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes environnements de vie et compagnie. Donc, Remise à zéro, une nouvelle fois, il a été inspiré de mon travail sur la partie plutôt changement climatique, cette fois-ci, où en fait, en formation avec les éleveurs ou les techniciens, on présente les perspectives climatiques d'ici 2050, en gros, à l'échelle d'une carrière, une projection de carrière. Mais par contre, ces projections-là, elles existent au niveau de Météo France, au niveau des perspectives du GIEC, etc., jusque 2100, voire même au-delà. Mais je me suis arrêtée, j'ai bloqué les curseurs en 2100 pour voir un petit peu ce que ça donne en termes d'environnement de vie, qu'est-ce qui attend nos enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants d'ici la fin du siècle, en termes de température, en termes de pluviométrie, niveau des océans, et toutes les répercussions sociétales qu'il peut y avoir autour de tous ces changements-là qui sont lancés aujourd'hui. Donc ça m'a permis de dessiner la planète qui pourrait nous attendre d'ici la fin du siècle. Et là-dessus, j'ai greffé une fiction, donc ça reste vraiment une histoire où on va suivre des personnages, une famille française, un couple de Russes et un Américain qui vont être liés au bout d'un moment par une intrigue, par un fil conducteur. Mais ça reste complètement une fiction. L'idée, c'est de sensibiliser à l'environnement et au changement climatique, mais tout en se faisant plaisir. On peut avoir une double clé de lecture.
Et on sent donc la dimension quand même alarmiste dans ce récit. Pourquoi vous diriez que vous êtes inquiète ?
Alors, moi je suis inquiète, oui et non. Alors, alarmiste, il n'est pas du tout ce roman-là. Excusez-moi. Alarmiste, pas du tout. Le roman, il se pose pas de questions en fait, les personnages. Ils vivent dans leur quotidien. Donc, ils vivent tranquillement, ils se posent pas plus de questions que ça. Et moi, je suis pas pessimiste dans le sens où, de toute façon, 2100, si nous on fait rien en tant qu'être humain aujourd'hui maintenant, au pire des cas, on sera plus là en 2100. Mais dans tous les cas, la planète, elle s'en remettra. Elle a déjà connu des vagues d'augmentation de température, des vagues de disparition de biodiversité. Pour la planète, pour le coup, ça m'inquiète pas du tout. C'est à nous de jouer pour être humain, si on veut savoir si on veut être encore là finalement sur Terre d'ici quelques dizaines d'années ou pas. Donc c'est plutôt fataliste.
Et donc pourquoi ce titre ? Pourquoi Remise à zéro ?
Ah, parce que la fin est très ouverte et laisse le lecteur imaginer ce qu'il veut imaginer pour la suite de l'histoire.
Et est-ce qu'on doit percevoir un message derrière ?
Oui, tout à fait. Le message que j'essaye d'instiller dans ce roman-là, c'est de sensibiliser à qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations futures et amener à réfléchir à l'heure actuelle sur tout ce qui va être gestion de l'eau, gestion des ressources fossiles. Tant qu'on en a encore, on n'a pas encore tout épuisé en termes de quantité ou de qualité pour l'un ou pour l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant tout de suite pour passer à l'action et éviter de devoir en arriver à mettre des quotas sur la gestion de l'eau au niveau familial, etc. par exemple.
Et donc aujourd'hui, vous en êtes à deux romans écrits et publiés. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ?
Oui, tout à fait. J'en ai un troisième en cours, qui met du temps à sortir, mais qui est en cours.
Ouais, vous pouvez nous en dire plus ou pas encore ?
Pas encore, je suis tenue par le secret professionnel.
Ça se comprend.
Tout ce que je peux dire, c'est que ce sera complètement différent des deux premiers. J'aime bien tester des trucs différents.
Est-ce que vous participez de temps en temps à des festivals du livre auxquels on pourrait vous rencontrer?
Oui, tout à fait. Régulièrement, c'est bah, par exemple, il y a fin septembre, j'étais au Festival international de géographie. Là, ça se calme sur la partie automne-hiver. Je lève un peu le pied pour justement essayer d'avancer sur le petit troisième. Donc, j'ai pas de date de festival dans les prochaines semaines. Mais régulièrement, c'est l'idée, c'est aussi c'est de venir à la rencontre finalement des lecteurs et pouvoir discuter, ce qui fait une grosse partie de la richesse de ce métier-là.
Et je vais finir peut-être par une question par rapport au site que vous avez ouvert qui s'appelle Citrouille à Citron, qui est fait pour donner des conseils pratiques en matière d'alimentation, de travail, pour être le plus écolo possible. Vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative ?
Oui, tout à fait. J'ai créé Citrouille et Citron en 2020, quelque chose comme ça, où en fait, c'était à force de discuter avec des collègues, des amis ou autres qui me demandaient la recette de la lessive qu'on fait à la maison, la recette que faire avec ses courgettes pour changer de la courgette farcie traditionnelle. Et en fait, j'en avais marre de répéter toujours la même chose à différentes personnes. Donc, je me suis dit, le fait de créer un site, ça peut permettre justement, d'une part, de diffuser de façon un peu plus ample les recettes de saison, des recettes zéro déchet, etc. Et pour moi, ça me sert aussi, finalement, c'est de façon très égoïste, ça me sert de recueil, où je sais que je peux aller rechercher la recette de X trucs. Si je l'ai déjà testé, elle est sur Citrouille et Citron et du coup ça me permet de retrouver plus facilement. Donc l'idée c'est bien de sensibiliser sur différentes échelles, on va dire au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel sur nos quotidiens, que ce soit dans la salle de bain, la cuisine ou au jardin, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter notre impact environnemental tout en continuant de vivre normalement sans aller vivre dans une grotte.
Qu'est-ce que vous espéreriez vous aujourd'hui au niveau global pour améliorer les choses? D'un point de vue pragmatique, personnel, que ce soit sur des questions de développement durable, de biodiversité, d'environnement, etc.
Eh ben, ce que j'espère, c'est qu'il y ait une prise de conscience générale et collective de l'enjeu et de l'urgence à agir à l'heure actuelle, à tout niveau, aussi bien au niveau politique, où on voit que ça a du mal à avancer, à s'amorcer, et au niveau citoyen, où finalement on se rend compte si ça bouge pas au niveau politique, c'est peut-être à nous, au niveau citoyen, de passer nous à l'action, et finalement si le petit citoyen lambda, si on est plusieurs milliers à faire ces gestes pour le climat, ces gestes pour l'environnement, ça va forcément se répercuter aussi bien sur la partie marketing, commercial, et finalement au niveau politique derrière. Donc c'est ce que j'attends, c'est que ça bouge, qu'on soit plus, on est de plus en plus nombreux à avancer sur ces thématiques-là, mais qu'on soit encore plus nombreux pour faire vraiment une inertie de groupe.
Eh ben merci beaucoup Nadège Viel. Donc on le rappelle, vous êtes consultante en agroéconomie, vous êtes l'autrice de Peanut et de Remise à zéro, et vous travaillez actuellement sur votre troisième roman. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre invitée.
Merci infiniment pour l'invitation.